Donc nous reprenons les communications avec à présent Audrey Camus. Donc Audrey Camus a réalisé un doctorat de littérature française sous la direction de Marc Dambre, à Paris 3 si je ne fais pas erreur, sous le titre du Pays imaginaire. Elle est actuellement professeure adjointe en littérature française contemporaine au Collège militaire royal du Canada, qui doit se situer à Kingston. Ses centres de recherche prioritaires dans la continuité de son travail doctoral concerne donc le pays imaginaire, mais également, ce qui va informer sa communication du jour, tous les problèmes relatifs à l'hybridation générique et, nous approchons de plus en plus du titre de la communication, tout ce qui concerne la forme romanesque. En matière de publication, elle s'est montrée extrêmement modeste, donc je respecte sa pudeur, elle m'a simplement indiqué qu'elle a récemment fait paraître, c'est-à-dire dirigé, un numéro de la revue Europe consacré à Boris Vian. Bon, n'ayant pas accès aux détails des communications antérieures, je reste pudique sur ce point, et précise simplement que nous écoutons une communication intitulée « Le roman, selon Volodin ».
Alors, je commencerai ma communication par une précaution oratoire. Ce titre du roman, selon Volodin, était en fait un titre de travail que je n'ai pas vraiment été capable d'améliorer. Et à la mention de ce titre, je me suis entendue dire à plusieurs reprises « Ouh là là, quel vaste programme !» Donc je vous rassure tout de suite, ou du moins je me protège, je compte absolument pas faire le tour de cette question épineuse, à la fois parce que l'œuvre d'Antoine Volodin résiste à la mise en boîte et parce que le roman lui-même est évidemment rétif à la définition. C'est précisément cette irréductibilité de l'un et l'autre qui m'intéresse et que je souhaiterais interroger aujourd'hui pour tâcher à la fois de rendre compte de la singularité du cas Volodin et, par la bande, de ce que cette œuvre nous révèle d'un certain rapport du contemporain au genre romanesque. Quoique la narration fictionnelle se déploie toujours plus ou moins à l'ombre du roman, pour reprendre une expression de Dominique Rabaté, celui-ci n'en a pas moins subi une forme de recul au cours des dernières années. Qu'on lui préfère discrètement le récit, que l'on revendique haut et fort l'autofiction ou que l'on opte pour la forme brève, les possibilités de s'en détourner ne manquent pas. Mais il est aussi des auteurs pour lesquels ce choix, présenté comme une alternative, devient un véritable enjeu. Curieusement, il en est même que ce refus du roman n'empêche pas de pratiquer le genre, ce qui les rapproche par-delà la singularité de leur parcours et de leurs écritures. Je pense notamment à des écrivains comme Éric Chevillard ou Pierre Sange, qui clament régulièrement leur refus de promener quelque miroir que ce soit le long des chemins, quand ils ne se vantent pas de priver la pauvre marquise de sa sortie de 5 heures. Mais je pense aussi bien évidemment à Antoine Volodin. Sans recourir à ces formules heureuses d'un Stendhal ou d'un Valéry par le biais desquels le XXe siècle a prétendu régler son compte au roman du siècle précédent, l'auteur non seulement revendique l'héritage du surréalisme, qui a contribué à leur fortune, mais prend également soin de se situer par rapport au genre romanesque et, dans une certaine mesure, je vais y revenir, de se situer en dehors. Cette attitude apparemment contradictoire, qui consiste à pratiquer le roman tout en le contestant, appelle pour commencer deux remarques. La première, c'est qu'à la suite notamment de la condamnation du tandem Valérie Breton, relayé par Gide puis Le Nouveau Roman, le roman 19e, qualifié indifféremment de classique ou de balzacien, a servi de repoussoir à nombre d'écrivains du siècle suivant. Sans doute parce qu'il appelait naturellement un dépassement, mais aussi parce que le roman mimétique est progressivement devenu, sous sa forme commerciale abâtardie, la forme littéraire dominante. Deuxièmement, la référence récurrente à ce roman dit classique, comme à un carcan dont il faudrait s'émanciper, fait question, dès lors que le roman moderne apparaît comme la forme libre par excellence au regard des poétiques classiques. Il me semble que cette référence repoussoir, toujours vivace, malgré l'âge respectable de la marquise qui fêtera bientôt ses 90 ans, sert en fait à figer ce genre rétif à la définition pour en délimiter les contours en creux et permettre, ce faisant, de s'en démarquer. Et le discours que tenait à propos de la forme romanesque Antoine Volodin dans un entretien donné en 1999 à l'occasion de la parution des Anges mineurs tend à confirmer cette hypothèse. Je le cite. Mais mon travail sur la forme vise plutôt à faire des propositions pour faire bouger le roman en tant que tel. Le roman classique, du 19e par exemple, procure des joies. Il n'est pas mort, mais il y a d'autres solutions. J'essaie de montrer que la forme romanesque est très riche et qu'on peut y déposer des modèles qui fonctionnent, qui sont des romans, ce livre en est un, et qui ne sont pas des expériences ennuyeuses, des constructions cérébrales et sans chair. C'est donc le rejet du roman du 19e, dont l'adjectif « classique » fait un nouveau parangon, qui à la fois stimule l'écriture et enclenche dans le même mouvement la régénération du roman. Cette sorte de pratique contestataire du roman n'est pas neuve, loin s'en faut. C'est la caractéristique essentielle de la veine antiromanesque, dont l'évolution accompagne celle de son contre-modèle, et veine antiromanesque qui compte des représentants aussi illustres que Rabelais, Sterne ou Nodier. Il faut en effet se souvenir que le terme d'anti-roman, par lequel Jean-Paul Sartre introduisait le portrait d'un inconnu de Sarraute en 1938, soulignant par là la singularité de cette œuvre et d'un certain nombre de ses contemporaines, servait en fait déjà de titre à la deuxième édition du Berger extravagant de Charles Sorel, paru en 1638. Il est notable que les polarités du roman et de l'anti-roman se sont régulièrement inversées au cours de l'histoire du genre, la plus spectaculaire de ces inversions ayant précisément lieu à la fin de l'Ancien Régime, au moment où le réel quotidien l'emporte sur la ligne romanesque idéalisante pour donner finalement naissance au roman balzacien. En dépit de son aspiration à l'autarcie, la pratique volodinienne s'inscrit donc dans une histoire du genre romanesque, celle de l'anti-roman, avec laquelle elle me semble partager un certain nombre de préoccupations, et ce en dépit de l'allusion réticente aux constructions cérébrales et sans chair par laquelle elle semble s'en démarquer. Je ne m'y arrêterai pas plus longtemps parce que je voudrais rentrer rapidement dans le vif du sujet et qu'il me suffit de considérer la manière dont cette pratique est mise en œuvre aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse ici, donc dans cette histoire de la veine anti-romanesque, c'est que le genre illimité du roman ait besoin de penser sa limite, voire de l'inventer pour évoluer, et que l'écriture volodinienne n'échappe pas à ce besoin. Si la forme fantôme du contre-modèle contraignant offre une première manière de penser la limite, en circonscrivant les contours du roman de l'intérieur, il existe une seconde manière de le faire, en considérant cette fois-ci la limite depuis l'extérieur, c'est-à-dire en définissant le roman par ce qu'il n'est pas, que ce soit par exemple la poésie, le théâtre, voire la photographie. J'y reviendrai pour ce qui concerne Volodine tout à l'heure brièvement. Cette question cruciale de la limite du roman, tant interne qu'externe, étant posée, j'en arrive maintenant à mon objet, l'œuvre de Volodine, qui me semble en fait travailler l'une et l'autre de ces limites pour les incorporer. Alors, l'avertissement a été formulé un peu plus clairement dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, et Lionel Ruffel l'a rappelé en ouverture de ce colloque. Il est hasardeux d'analyser la production post-exotique quand on emploie les termes que la critique littéraire officielle a conçus pour autopsier les cadavres textuels dont elle peuple ses morgues. Ce n'est donc pas sans une certaine appréhension que je m'aventurais à présent à parler du roman volodinien en présence de l'auteur qui plus est. Cette mise en garde est caractéristique de la manière agonistique dont l'œuvre d'Antoine Volodine pose la question formelle, comme bien d'autres questions au demeurant. Ici, comme dans Le Nom des singes, l'idiome constitue un élément déterminant du rapport de force, et c'est précisément parce que la maîtrise du lexique constitue une question de vie ou de mort que l'œuvre s'emploie à échapper aux dénominations littéraires existantes. L'étiquette post-exotisme, que l'on a déjà beaucoup glosée, constitue à cet égard la première et la plus importante des origines d'appellations contrôlées, mais le terme de roman sur lequel je vais m'arrêter participe évidemment de la même attitude défensive, ainsi que Yazar Tachalski l'explique d'ailleurs aux représentants de la critique officielle venus s'entretenir avec les écrivains post-exotiques, et je cite ce passage également bien connu du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Ils ont inventé des formes vides que vous n'aviez jamais eu l'occasion de polluer. Et ils les ont remplis avec des visions auxquelles votre sensibilité est étrangère. Là aussi, par là aussi, ils étaient entrés en dissidence. Ils ont inventé le genre romance pour ne pas être mêlés à vous, ni à vos tentatives de rénovation du roman, à toutes les jongleries boutiquières des avant-gardes institutionnelles. C'est une démarche d'aversion, vous saisissez, d'aversion et de malveillance. Le terme romance entre donc dans une relation de concurrence avec celui de roman, relation qui suppose à la fois différence et proximité. La différence est revendiquée parce que l'aversion pour ce que les écrivains post-exotiques appellent le monde extérieur, pour sa littérature commerciale et sa critique sclérosante, les engage à tourner le dos aux catégories existantes et à mettre leurs innovations au seul crédit du post-exotisme. Quant à la proximité entre les deux termes, on peut penser qu'elle est en revanche subie. La volonté de faire du post-exotisme un ailleurs absolu se trouvant contrariée par l'impossibilité de couper le lien avec cet extérieur dont la forme romanesque provient. Alors reste à savoir de quelle nature est le rapport des objets que ces deux termes désignent. Autrement dit, si l'innovation terminologique s'accompagne d'une innovation formelle. Le fait est qu'en dépit de l'invention générique foisonnante qui caractérise le post-exotisme et de quelques incartades éditoriales, les textes signés Antoine Volodine paraissent généralement sous la mention roman. L'écrivain lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, use du terme dans les entretiens et, parmi la liste fournie par les éditions du Seuil dans Songe de Mevlido, à la rubrique du même auteur, 3 livres seulement, sur 16, ne sont pas présentés comme des romans. Et un seul s'accompagne de la dénomination romance, à savoir « Vue sur l'ossuaire », les deux autres étant des anges mineurs, qualifiés de « nara » au pluriel, et nos animaux préférés, qualifiés d'entre-doutes. Si ce recours parcimonieux aux dénominations post-exotiques n'est pas, ou plutôt n'est plus, le résultat d'une frilosité éditoriale, puisque les éditions Gallimard comme celle du Seuil ont finalement accepté d'en faire usage, on peut se demander ce qu'il explique. C'est vraisemblablement la parution relativement tardive du post-exotisme en dit leçon 11, publié en 98, soit 13 ans après le premier opus volodinien, puisque ce n'est qu'avec ce 11e livre, on le sait, que le système se met véritablement en place. Proscrire le terme « roman » à partir de cette date reviendrait en effet à confiner les textes parus antérieurement dans une différence de statut nuisible à la cohérence globale de l'œuvre. Et c'est sans doute pourquoi les dénominations post-exotiques n'apparaissent que sporadiquement dans le péritexte éditorial depuis cette date. La leçon 10 du post-exotisme en dit leçon 11, permet d'éclairer plus précisément les rapports entre romance et roman tels que Volodine nous les donne à penser. Cette leçon, qui s'intitule elle aussi du même auteur dans la même collection, fait en effet l'inventaire quant à elle d'une bibliothèque post-exotique comportant 343 livres, on en a déjà parlé. Dans cette liste d'œuvres pour la plupart imaginaires figurent quelques titres effectivement publiés par l'un ou l'autre des hétéronymes édités ou utilisés pour nommer des subdivisions internes des œuvres parues. Les 10 livres signés Antoine Volodine avant le post-exotisme en dit leçon 11 y sont tous consignés et s'ils sont attribués à d'autres auteurs, leur date de parution en revanche est exacte. Or, tous ces textes, sans exception, quelle que soit la mention générique dont ils s'accompagnaient au moment de leur parution, sont présentés comme des romances. Ce double étiquetage, par la superposition qu'il opère entre les deux termes de roman et de romance, tend donc à faire du second l'avatar volodinien du premier. En raison du recours systématique à cette appellation pour désigner les livres parus dans la bibliothèque post-exotique, le romance apparaît par ailleurs comme la forme englobante caractéristiques de l'œuvre, dont Chaga, Nara ou Entrevoûtes constituent dès lors autant de variations internes et de composants. De fait, le romance appartient bel et bien à la famille des formes romanesques, si l'on en croit Yakub Kachbakiro, auteur de la leçon qui lui est consacrée. Je cite « Son ambition narrative, sa taille, son style le rapprochent du roman. Il s'en distingue par plusieurs traits que la leçon 4 se propose d'inventorier, fournissant de la sorte une définition par contraste, là encore. C'est donc contre le roman, mais tout contre, pour ainsi dire, que Volodine écrit ses romances et renouvelle ce faisant la forme romanesque tout en affectant de s'en détourner. Si le roman volodinien participe à sa manière de la veine anti-romanesque, c'est d'abord dans la mesure où, comme je l'ai dit, il se définit en opposition à un roman dit classique, dont ce faisant il trace les contours en creux. Mais il y a une autre raison, plus fondamentale à cette appartenance, qui tient précisément au rapport tout à fait particulier que le post-exotisme entretient à cette limite que j'évoquais tout à l'heure, limite qu'il n'a de cesse d'exacerber pour mieux la franchir. Alors, je voudrais maintenant revenir plus précisément à cette leçon 4 du post-exotisme, on dit leçon 11, qui donc propose une définition en creux, par contraste, du romance, et rappeler brièvement les traits définitoires inventoriés, traits que je vais résumer en empruntant certaines formulations au texte. Alors, le premier de ces traits, l'unité de sang, établit une parenté thématique entre tous les romances, parenté fondée notamment sur le désespoir extrémiste et l'origine carcérale de la production post-exotique. Le deuxième trait, thématique lui aussi, concerne le non-repentir du narrateur et spécifie l'idéologie que tous les narrateurs ont en partage, celle de l'égalitarisme criminel. La mort du narrateur, qui constitue le troisième trait, signale la polyphonie propre à l'œuvre et la dispersion identitaire dont celle-ci s'accompagne, par le biais de l'hétéronymie notamment. Il s'agit en fait, pour le narrateur, de s'effacer pour prêter sa voix à un autre. La quatrième caractéristique du romance est la non-opposition des contraires. Celle-ci implique que les contraires tendent à se confondre sans disparaître pour autant. Je cite « Les antagonismes sont clairement définis, mais à l'intérieur d'un système en oscillation ou en boucle, qui modifie la nature des oppositions et, en résumé, ne leur attribue aucune importance. » Il faut remarquer que cette caractéristique empêche d'opérer des distinctions, à la fois entre bourreau et victime, passé et présent, rêve et réalité, etc. Le cinquième trait, le formalisme. Le roman, s'est-il expliqué, cultive les contraintes invisibles d'ordre métrique ou musical, sans s'astreindre pour autant à quelque canon que ce soit. Le sixième trait, intitulé « Oralité », concerne la diffusion du romance dont la circulation est assurée par une récitation chuchotée. Cette circulation suppose un cryptage des noms et des actions destiné à déjouer les manipulations malveillantes. Ce sixième trait introduit à la réception du texte qui sera plus précisément codifié par le trait suivant. Le véritable lecteur du post-exotisme, précisons dans cette septième entrée intitulée « Présence du lecteur », est lui-même un personnage du post-exotisme, familier par le fait de son fonctionnement. Quant au lecteur extérieur, dit sympathisant, qui se trouve relégué au rang de lecteur secondaire, le texte prend soin de les orienter. Ce qui frappe d'abord à la lecture de cette leçon consacrée aux romances, c'est la diversité et l'hétérogénéité des traits recensés, qui, parce qu'ils concernent simultanément l'univers de la fiction et ses procédés d'écriture, rendent impossible toute tentative spontanée de clarification par le regroupement de ces caractéristiques en catégories distinctes. Ainsi, l'unité de sang et l'idéologie égalitariste criminelle définissent la thématique de l'œuvre en même temps que la position du narrateur, emprisonné en raison de son implication. Mais ils concernent également la dimension formelle de l'entreprise post-exotique, dès lors qu'il constitue cette entreprise en cycle romanesque hétéronymique. Il en va de même pour la mort du narrateur et pour l'oralité, qui statue sur la profération et la mise en circulation de la parole. Ces traits intéressent non seulement le plan de la narration, puisqu'ils désignent un narrateur non fiable, à l'identité fluctuante et au récit troué, mais ils caractérisent aussi bien l'univers de la fiction dès lors qu'ils portraiturent ses protagonistes. La présence du lecteur dans les pages du livre, en tant que personnage de la fiction, a le même effet. Quant au formalisme, il appartient simultanément aux deux plans lui aussi, de par la dimension performative que lui confère son statut de théorie autochtone de la fiction. Il suffit en fait que le texte définisse le narra, la chaga ou le romance pour leur donner jour et pour que la fiction théorique se couvre dans le même mouvement des oripeaux du vrai. À regarder de plus près ces six caractéristiques, on s'aperçoit que la ligne de partage passe entre les deux pôles énonciatifs plutôt qu'entre le plan de la diégèse et celui de la narration. Les trois premiers traits, relatifs, je le rappelle, à l'unité de sang, à la mort et au non-repentir du narrateur, soulignent l'unisson des voix du post-exotisme et circonscrivent donc l'origine de la narration. Les trois derniers, formalisme, oralité et présence du lecteur, déterminent quant à eux la réception de l'œuvre. Quant à la non-opposition des contraires, septième trait, qui concerne toutes les dimensions du romance, elle me semble fondamentale en ce qu'elle contrarie l'appréhension globale de l'ensemble et définit précisément le rapport particulier à la limite qui m'intéresse en le problématisant. Il me semble que ce que met particulièrement en lumière la leçon consacrée aux romances, c'est qu'il n'est plus de distinction possible entre texte et hors-texte, plus de frontière entre les deux, dès lors que l'univers représenté se donne pour le producteur du livre que nous tenons entre les mains, dès lors que le personnel du roman est censé en être l'auteur collectif. Cette métalepse, que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises lors de nos échanges, et qui tend à dissoudre les frontières entre le dedans et le dehors, constitue en fait le principal trait distinctif du roman svolodinien, trait autour duquel s'articulent implicitement en fait tous les autres. Quoi qu'ils n'en perdent pas leur utilité pour autant, et la démonstration en a été faite hier, les outils narratologiques s'en trouvent mis en cause. Les narrateurs volodiniens peuvent être tenus à la fois pour homo et hétérodiégétiques dès lors qu'ils relatent une histoire commune qui est aussi la leur, mais généralement à la place d'un autre. Ils sont à la fois intra- et extra-diégétiques puisqu'ils sont les personnages du livre, mais aussi ses prétendus auteurs, et qu'ils accèdent parfois même à une pseudo-existence à travers la publication des hétéronymes. Le couple auteur-lecteur subit les mêmes attaques. En se présentant comme le porte-parole de la communauté post-exotique, Volodine tire profit de la zone à risque des seuils de l'œuvre pour escamoter la personne de l'auteur et permet ainsi à la fiction d'investir la réalité. La représentation du lecteur qualifiée de véritable dans les pages du livre sous les traits d'un personnage post-exotique parachève la métalepse puisqu'en refusant ce statut de lecteur véritable au lecteur réel, c'est-à-dire vous, moi, aussi bien que le lecteur de librairie, il me semble qu'elle ne lui laisse pour finir guère d'autre choix que de devenir lui-même un personnage post-exotique pour accéder au rang de véritable lecteur. La première caractéristique du roman volodinien, comme de l'univers post-exotique dans son ensemble, tient donc dans le brouillage entre le plan de la narration et le plan de la diégèse occasionné par cette métalepse. Brouillage qui complique singulièrement tant la facture que l'analyse de l'œuvre, et fait de la limite entre réalité et fiction un enjeu. Cela étant dit, il me semble que cette métalepse n'occasionne nullement une pure et simple dissolution de la frontière, mais exacerbe bien plutôt cette frontière par un franchissement qui la rend perceptible. C'est ce que je voudrais montrer maintenant. L'explication que j'ai donnée tout à l'heure, que j'ai citée tout à l'heure, concernant la non-opposition des contraires, éclaire ces mécanismes, en insistant à la fois sur l'existence d'antagonismes et sur la difficulté de leur saisie. Mais c'est quant à moi à l'image de la chimère horacienne que j'aurais plutôt recours pour l'expliquer. Ce mouvement d'exacerbation d'une frontière que l'on franchit, dont le souverain balbutiard apparaît comme l'incarnation exemplaire, est en effet celui de l'hybridation, qui tend à faire du romance un apax irréductible et insaisissable. J'ai déjà analysé à d'autres occasions un certain nombre des tactiques volodiniennes qui contribuent à mettre en place cette hybridation. Et je vais donc me contenter aujourd'hui d'en faire un inventaire rapide en commençant par revenir sur la dimension formelle du romance que la leçon 4 expédie assez rapidement en fait à travers la seule mention du formalisme. Le romance apparaît fondamentalement hybride donc. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme englobante qui constitue le réceptacle de toutes les autres inventions génériques volodiniennes. Chaga, Nara, Entrevoûte et autres Murmura, je n'oublie pas le Murmura, la dimension performative de ces vocables spécifiques autoproclamés dissuade généralement de pousser plus avant. Quand on s'y risque, et plusieurs l'ont fait avant moi, on s'aperçoit toutefois que ces définitions génériques données par l'auteur ne sont pas véritablement applicables en fait. Franck est bien placé pour en parler. Les textes volodiniens ne se privent d'ailleurs pas de le faire remarquer en mettant en cause leur appartenance à l'un ou l'autre des genres post-exotiques. À mon sens, le principal effet de ce flou savamment entretenu est précisément d'entretenir des frontières génériques litigieuses. D'autant que cette hétérogénéité structurelle est renforcée par un mélange entre les pratiques artistiques, dont la définition du nara telle qu'elle est donnée par des anges mineurs rend partiellement compte. Je rappelle donc que le nara met à contribution notamment la musique et l'image, mais aussi le théâtre et la poésie. Enfin, l'appartenance simultanée de la production post-exotique à des sous-genres tels que l'utopie, le fantastique, l'aventure, la science-fiction ou encore le polar politique va dans le même sens. Là encore, la frontière est exacerbée par ces jeux parodiques qui cultivent les incompatibilités, empêchant l'image du romance de se figer et le lecteur de convoquer quelques clés génériques que ce soit. À l'instar du souverain balbutiard, dont l'étrange morphologie empêche qu'on puisse rien dire sinon qu'il ressemble au cauchemar d'une blatte, le romance a quelque chose de monstrueux. Là, comme dans la parturition de l'arthropode, l'auto-engendrement coupe court à l'ascendance comme à la descendance pour donner naissance au grotesque. De tels processus d'hybridation sont à mettre au compte d'une conscience accrue de la forme qui est typique à la fois de ce roman qui se pense contre celui du XIXe siècle et de la veine anti-romanesque que j'évoquais tout à l'heure. Cette dimension métatextuelle et auto-réflexive qui tend à faire du roman la matière même du roman se manifeste par ailleurs dans l'œuvre de Volodine à travers un certain nombre d'autres dispositifs, notamment à travers la mise en scène du livre, de sa production, de sa diffusion, comme à travers la mise en scène d'un rapport dialogique avec le lecteur, rapport qui revêt toutes les apparences du combat. Mais l'insaisissabilité du roman volodinien n'est pas seulement formelle. On la retrouve aussi au sein même de la fiction et parmi les personnages pour commencer. Alors c'est le cas de Balbutiard que j'évoquais, mais c'est en fait le cas de tous les autres personnages volodiniens. Qu'il s'agisse d'anges, d'extraterrestres, d'Untermenschen ou d'animaux doués de parole, tous ont en commun cette même nature hybride et équivoque, qu'aggrave encore la dissémination de l'instance narrative et la prolifération des protagonistes, dès lors qu'elle prive en fait le roman de son indispensable héros. Les dimensions spatiales et temporelles de la diégèse sont également problème, on en a déjà parlé. La géographie de fin du monde propre au post-exotisme annule tout repère, et quand la fiction tend à substituer le futur au présent pour mieux réécrire le passé, il n'est pas non plus d'ancrage temporel possible. Ce dérèglement est d'autant plus pernicieux que rêve, réalité et fiction, et mensonge, sont indiscernables et que la narration est sans cesse contrariée par la répétition des scènes, la multiplication des points de vue et la confusion des identités. Le tout est couronné par une émancipation totale de la vraisemblance qui, associée au mélange générique, rend l'univers post-exotique proprement et définitivement rétif à toute stabilisation. Il faut se rendre à l'évidence, la non-opposition des contraires est ici la seule règle qui vaille. Mais si, à la fois par sa forme et par les histoires qu'elle met en scène, cette forme du romance volodinien cultive l'hétérogène et la dispersion, si la gigantesque métalepse sur laquelle elle se fonde fait de la fiction un problème, si le roman semble s'évertuer à défaire l'illusion mimétique et constitue à sa manière une forme d'anti-roman, il n'en constitue pas moins, paradoxalement, un système fort bien constitué qui réinvestit la forme romanesque d'une efficace rarement atteinte depuis le grand roman du XIXe siècle contre lequel il s'écrit. De ce roman dit classique, il est manifeste qu'il a su tirer le meilleur pour le revisiter, soit un art consommé de l'intrigue et du romanesque, d'une part, et une vocalisation totalisante à laquelle la métalepse confère une ampleur nouvelle. Je vais aborder ces deux points successivement, en commençant par le romanesque. La grande force du texte volodinien est en effet de ne pas sacrifier le romanesque, et c'est une chose que Tiphaine Samoyo avait observée très tôt, dans une critique du port intérieur, où elle soulignait cette particularité en même temps qu'elle rendait déjà compte d'un jeu sur la limite. Je cite, « Entre les deux voies principales qui s'offrent aujourd'hui au roman, le roman qui raconte et le roman du roman, Antoine Volodine ne choisit pas et offre les deux ensemble, dans un remarquable travail d'effacement des frontières entre intérieur et extérieur, entre histoire et récit. » Fin de la citation. Le roman volodinien est effectivement riche en péripéties et en rebondissements, et la tension narrative y est d'autant plus forte que ces péripéties constituent généralement les épisodes d'une lutte à mort. Si la lutte politique qui le façonne insuffle l'aventure dans la fiction, dans le roman volodinien, l'amour en est par ailleurs une donnée essentielle. Il s'agit en somme d'un roman profondément romanesque Et il n'est que de confronter ce roman aux caractéristiques très définitoires que Jean-Marie Schaeffer a récemment recensées pour le vérifier. Tout d'abord, les éléments que je viens de souligner recoupent les deux critères de, je cite, « l'importance accordée dans la chaîne causale de la diégèse au domaine des affects, des passions et des sentiments, ainsi qu'à leurs modes de manifestation les plus absolus et extrêmes, d'une part, au critère de la saturation événementielle et de son extensibilité indéfinie, d'autre part. Le troisième critère de Jean-Marie Schaeffer, celui de la représentation des typologies actentielles physiques et morales par leurs extrêmes, du côté du pôle positif comme du pôle négatif, paraît particulièrement pertinent quant à lui, pour appréhender la non-opposition des contraires, caractéristiques du romance, en tant que celle-ci exacerbe les antagonismes plutôt que de les effacer. Quoique l'univers post-exotique soit pris en étau entre les deux certitudes contradictoires de la nécessité et de l'impossibilité de l'utopie, il n'en demeure pas moins façonné par le dualisme qui oppose militants égalitaristes et capitalistes mafieux. C'est bien un monde où les vecteurs axiologiques sont polarisés à l'extrême. Enfin, le quatrième trait du romanesque, que Schaeffer désigne comme sa particularité mimétique, à savoir le fait qu'il se présente en général comme un contre-modèle de la réalité dans laquelle vit le lecteur, peut tout à fait rendre compte quant à lui de la dimension spéculative et uchronique de la fiction volodinienne. Alors, il va sans dire évidemment que ce romanesque post-exotique est un romanesque éminemment conscient de lui-même, comme en atteste à la fois la reprise parodique de nombreux clichés de genre, et le fréquent recours à cet humour du désastre qui vient périodiquement contrecarrer les prétentions épiques du récit. Mais cette subtilisation ironique n'abolit pas le romanesque pour autant. A l'inverse, je crois plutôt que c'est le romanesque qui travaille au bénéfice du post-exotisme, en ce qu'il constitue très certainement un opérateur de l'immersion fictionnelle. La deuxième force du système post-exotique que je souhaiterais aborder lui est conférée par cette dimension d'œuvre-monde. Malgré la confusion identitaire, malgré l'incertitude caractéristique de la narration, le retour des personnages et l'extrême cohérence de la construction post-exotique l'apparentent aux grandes sommes romanesques initiées par le XIXe siècle. Et il n'est pas anodin de ce point de vue qu'un critique l'ait récemment qualifié de comédie post-humaine. À considérer Balzac à la fois comme père du roman moderne et comme l'un des premiers écrivains à avoir pris en charge la diffusion de son œuvre selon des modalités éditoriales proches de celles que l'on connaît aujourd'hui, cette parenté apparaît particulièrement éclairante. La métalepse post-exotique peut de ce point de vue apparaître comme un aboutissement du projet balzacien, un projet dont l'aspiration à dire l'entièreté du monde de totalisante serait devenue totalitaire. C'est quelque chose, c'est un déplacement qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Alors, je m'explique sur ce déplacement. La première chose, c'est que la stratégie du romance post-exotique, qui consiste donc, comme je l'ai dit, à exacerber la limite pour la rendre perceptible dans le même temps qu'elle la dissout, constitue un renversement de l'attitude réaliste qui consiste à effacer la limite, à la faire oublier, et se faisant la rendre étanche. Donc, si on considère la chose de ce point de vue-là, le roman volodinien apparaît fort éloigné du roman du XIXe. Mais un tel jeu sur ce que Genette, dans sa première définition de la métalepse, appelait la frontière mouvante mais sacrée entre deux mondes, celui où l'on raconte, celui que l'on raconte, est caractéristique de la ligne anti-romanesque, en ce que cette dimension autocritique du discours littéraire, manifestée à l'intérieur même du texte par la dénudation de ses procédés, a pour effet de lever l'illusion mimétique. De ce point de vue-là, il suffit de penser aux intrusions d'un Stern dans Tristram Shandy ou d'un Diderot dans Jacques le Fataliste pour s'en convaincre. Comme l'observe Henri Coulet dans son histoire du roman jusqu'à la Révolution, malgré son absence de forme préétablie, il y a une convention constitutive du genre romanesque, c'est que, je cite, « l'histoire est admise comme vraie et l'on ignore qu'un écrivain la fabrique ». Là est l'ambiguïté du roman, fiction connue comme fiction et éprouvée comme vérité. Lorsque l'équivoque est levé, le roman meurt, tué par la lumière. Or, l'anti-roman a pour but de projeter la lumière, de démasquer le romancier, de rendre impossible la connivence du lecteur, de refuser l'équivalence entre vérité imaginée et vérité de fait, de rappeler en un mot que ce que l'on invente n'existe pas. Fin de la citation. Ceci étant, chez Volodine comme chez Borges ou comme chez Cervantes, c'est au contraire pour mieux instaurer la confusion entre l'univers du lecteur et celui de la fiction que la frontière de la représentation est ainsi ravivée. Autant qu'à rappeler l'artificialité de la fiction, la métalepse sert à favoriser l'absorption du lecteur. Elle endosse donc la fonction totalitaire de phagocytage du réel. Il s'agit non plus ici de dire le tout du monde, mais de s'y substituer, ce qui, à tout prendre, constitue en fait le meilleur moyen de s'en saisir. L'aspect que je vais à présent évoquer a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans le colloque, donc je vais passer rapidement. Et je voudrais néanmoins rappeler pour finir, quant à la manière dont ce phagocytage est opéré, que cette manière a été progressive, qu'on est parti de l'intérieur du texte pour passer au seuil du texte et pour enfin parvenir à contaminer la réalité, selon une progression qui a été marquée par deux dates importantes, la première étant l'apparition du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11 en 1998, et la naissance de Lutz Bassmann aux éditions Verdier 10 ans plus tard. L'offensive préparée pour la rentrée prochaine, avec la publication simultanée chez trois éditeurs différents de trois voies du post-exotisme, dont la vidéo mise en ligne sur le site internet de l'éditeur donne un avant-goût, confirme l'importance de cette nouvelle étape dans l'histoire de la production post-exotique. Avec la pléthore d'entretiens, de thèses, de collectifs théoriques et de colloques de ces dernières années, la prolifération des hétéronymes et la multiplication des éditeurs, le détournement de Wikipédia, la prise de parole sur l'actualité ou la consécration de Cerisy, Volodine est sur tous les fronts. Et on ne peut s'empêcher de se demander si l'on n'entre pas ainsi, d'une certaine manière, dans l'âge d'or qu'évoquait déjà le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, je cite, « Dans le domaine littéraire, nous avions réalisé les objectifs de la première génération. Nous étions parvenus à un âge d'or, et, du fond de nos textes, l'ennemi n'était plus qu'une ombre fragile, sur quoi nous avions désormais pouvoir de vie et de mort. L'extérieur n'était plus qu'une invention littéraire, un monde virtuel que nous façonnions ou détruisions à notre guise. » Quoi qu'il en soit, on assiste en tout cas à une forme d'actualisation du projet post-exotique, et ce n'est pas la moindre singularité de l'œuvre que de parvenir ainsi à réaliser les objectifs fictionnels qu'elle s'était fixés, en soumettant le marché éditorial à son bon vouloir, malgré des contraintes marchandes réelles. Éditeur, critique, lecteur de librairie, le post-exotisme ne laisse personne en reste, et cette prise en charge de sa production, de sa diffusion et de sa réception a quelque chose de spectaculaire, qui rappelle par certains égards la manière dont un Balzac, imprimeur et feuilletoniste, a pu prendre part à la naissance de la littérature de grande diffusion. J'en arrive à ma conclusion. Le romance volodinien est à la fois donc roman qui raconte et roman du roman, système totalisant et à pax monstrueux. Il réussit donc finalement la conjonction de deux pratiques du roman en apparence contradictoires. Mais la forme romanesque telle que la pratique Volodine fait plus encore, me semble-t-il, en incorporant la limite pour faire d'une telle conjonction la pierre de touche de l'édifice post-exotique. Quoique Volodine prenne un malin plaisir à revendiquer la dimension totalitaire du post-exotisme, c'est quelque chose qu'on a déjà dit, et quoique l'œuvre paraisse se replier sur elle-même à la manière d'un dessin de chair, cette incorporation de la limite ouvre sur un dehors, au même titre d'ailleurs que le métacommentaire de l'auteur qualifiant son œuvre de totalitaire, puisque ce faisant, il donne à penser la limite et la met en scène pour son lecteur plutôt qu'il ne l'efface. Pour la clarté de l'exposé, j'ai abordé successivement l'œuvre sous l'angle du système, après en avoir dégagé la dimension monstrueuse d'Apax. Mais il va de soi que l'œuvre est à la fois, en réalité, l'un et l'autre, de même que la métalepse qui la détermine tout entière, à la fois sert l'illusion et la dénonce, exactement à la manière d'un dessin des chairs. En ce sens, pour revenir au propos d'Henri Coulet que je citais tout à l'heure, ce n'est pas tant, à mon sens, la connivence avec le lecteur que l'œuvre rend ainsi impossible, que son consentement à une illusion qui serait acquis par avance. La grande famille de l'anti-roman met au jour l'illusion romanesque, non pour s'en débarrasser, mais pour en jouir. De la même façon qu'elle attaque la limite pour en faire expérimenter le franchissement. Pour revenir finalement au contexte contemporain dont je suis partie, il me semble que cette pratique anti-romanesque, qu'accompagne immanquablement une réflexion sur l'éthos de l'écrivain, constitue aujourd'hui une des réponses possibles à la sollicitation particulière dont les auteurs contemporains étudiés à l'université font l'objet, dont on a parlé lors de la première journée. Pour l'écrivain sommé de rendre des comptes et tributaire en outre de la reconnaissance du public pour continuer à exister, l'alternative est simple, attendre que ça se passe ou prendre les devants. Extrêmement consciente de ce problème, l'œuvre d'Antoine Volodine a choisi évidemment la deuxième option pour accomplir le tour de force de réconcilier le roman et le romanesque. Le roman du roman et le romanesque, pardon. Mort de l'auteur, narrateur non fiable, machine coopérative, écriture collective et pour finir, conscience du contemporain, c'est comme si le roman volodinien avait non seulement intégré toutes les révolutions critiques au fondement même de son projet, mais les avait problématisées et en somme dépassées pour créer à partir d'elles une forme nouvelle. À lire cette œuvre que l'auteur présente volontiers comme méfiante, on se dit que jamais le soupçon n'aura été aussi productif. Je vous remercie.
Je remercie donc Audrey Camus pour son exposé très dense qui aborde de front des problématiques qui vont certainement susciter un certain nombre de réactions, puisque là je crois qu'il y a un débat théorique qui peut s'enclencher, simplement puisque j'essaye de compenser le rôle qui m'a été confié ce matin. Moi, à titre personnel, j'ai évidemment pris intérêt à votre communication, parce que ça fait quelques années que la métalepse est ma danseuse, donc j'étais content d'en entendre parler et de l'avoir placée, je crois, à juste titre, au fondement de l'œuvre. Moi, j'ai simplement une question, si on m'y autorise. Non, c'est pas élégant. En fait, je vais d'abord laisser la parole à l'auditoire et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc simplement, si je le fais, donc si je ne me montrais pas égoïste, c'est que vers 11h15, midi et quart, pardon, on est censé arrêter nos échanges, qu'il est pratiquement moins 5. Donc je verrai si je peux poser ma petite question quand l'auditoire a fini de s'exprimer. Monsieur, en déclinant donc.
Philippe Brissin, merci beaucoup pour la communication et effectivement elle suscite beaucoup de réflexions et des questions. Donc, d'abord, merci d'avoir parlé de la métalepse. Et en fait, quand on parle de la métalepse, on parle du récit. Donc en fait, la veine anti-romanesque, pour moi, c'est le primat du récit. Et l'anti-roman, c'est toujours du pro-récit. Quand on parle de veine anti-romanesque, en fait, au début, vous avez essayé de tracer une histoire. Et on a une opposition récit-roman, effectivement, depuis la fin du 19e siècle, enfin, depuis les symbolistes, ça dure jusqu'à. Vous pouvez citer Rabatel, donc ça dure jusqu'à des forêts, quoi. Bon, c'est aussi théorisé par Blanchot. Bon, ça, c'est sur l'aspect français. Mais. Et donc ça, tout ça a été très bien dit. Moi, je sais que quand j'avais rencontré cette question, enfin, je me pose la question aussi de savoir si cette opposition du récit et du roman, c'est pour ça que le terme d'anti-roman parce que dans l'anti-roman, vous mettez du romanesque. Et par exemple, c'est un peu le type de position que, enfin de, d'opposition que Chalamov a à l'égard de Solzhenitsyn. C'est-à-dire que là, on passe à quelque chose qui n'est pas plus seulement formel, réaliste, mais qui est idéologique. Quand Chalamov dit à Solzhenitsyn, non, je ne vais pas écrire l'archipel du Goulag avec vous, parce que vous écrivez dans une forme qui est la forme du 19e siècle, et aussi parce que c'est une forme qui était la forme idéologique d'origine. Je me demande si dans cet anti-roman, il n'y a pas aussi cette mention-là. Et ce que je ne comprends, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est à un moment, puisque tout est construit sur l'anti-roman classique, et vous parlez de comédie post-humaine, donc en citant, mais en étant apparemment reprenant ça à votre compte. Non, je comprends ça, j'avoue, je comprends mal, puisque. Voilà. Il ne faut pas que le retour des personnages suffise à définir une postérité balzacienne, parce que sinon, Beckett est post-balzacien.
En fait, tout dépend de ce qu'on met d'abord derrière le terme d'anti-roman, qui a la caractéristique de pouvoir se prêter en fait un peu à tout et n'importe quoi. Et il me semble que c'est ce qu'il a d'intéressant, parce que c'est celui qui permet de relancer justement toujours la forme et de la déplacer. Je pensais plutôt en fait à la manière dont Kibedi Varga revient sur l'opposition entre roman et anti-roman à la suite de quelqu'un comme Northrop Frye. Et donc ce qui est recouvert ici par cette opposition, c'est plutôt l'opposition entre ce que les Anglais appellent le romance d'une part et le novel de l'autre, avec cette idée que l'anti-roman, enfin cette idée qui est celle de Kibedi Varga, selon laquelle l'anti-roman aurait d'abord été réaliste en opposition à la veine idéalisante, et que le roman du 19e, tel qu'il se pratique d'ailleurs encore majoritairement aujourd'hui, celui qu'on appelle le roman serait par définition un anti-roman puisque il est d'abord réaliste. Ce qui m'intéressait aussi par rapport à cette notion-là, c'est une contribution qui est très récente de Francis Gingras et Hugo Dionne dans un numéro d'études françaises qui porte sur l'usage des vieux romans et où ils reviennent sur l'opposition, sur l'article provocateur de Kibedi Varga, le roman est un anti-roman. En montrant que cette opposition, elle n'est pas forcément diachronique en réalité, mais qu'elle est au cœur du roman depuis toujours, que le roman se constitue toujours comme ça, dans un mouvement d'opposition à lui-même, et ce, depuis les premiers romans, ceux du Moyen-Âge. Donc c'est dans cette optique-là que je me situais, plutôt, même si c'est resté implicite parce que je ne voulais pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, pour ce qui concerne la comédie humaine, oui, c'est évidemment, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais en même temps, il me semble que l'efficace du roman volodinien, l'efficace de l'œuvre volodinienne, et je l'ai constaté pour l'avoir donné en lecture à des étudiants avec d'autres auteurs contemporains qui marchaient beaucoup moins bien, si on veut, à quelque chose. Qui procède justement de cette mécanique mise en place par le roman du 19e. Le retour des personnages, il est à considérer évidemment avec le petit coup de pouce de la métalepse qui fait qu'ils occupent une place qui n'est pas celle qu'ils pourraient occuper ailleurs et qui donc ils vont investir notre réalité d'une manière différente, ce qui va renforcer la cohérence. Ce que je voulais simplement en fait essayer de montrer, c'est que, alors qu'a priori c'est pas vers Balzac qu'on irait quand on parle de Volodine, il y a quelque chose qui est à prendre en compte ici. C'est un peu ce que, dans une certaine mesure, ce que Tiphaine Samoyiou avait questionné en parlant de l'excès du roman, avec cette idée que le roman serait toujours un excès, mais que la forme du 19e l'aurait stabilisé. Il me semble que la forme du 19e est devenue donc un contre-modèle et que tenir compte de ce contre-modèle repoussoir pour penser à la littérature contemporaine ça permet de mettre au jour des choses qu'on verrait pas forcément autrement. En fait, c'est tout simplement ça.
Attends, il y a juste... En fait, je donne la parole à ceux dont j'aperçois le doigt en premier lieu. Et là, j'ai vu celui de Pierre Ouellet se lever il y a un moment. Et ensuite, Joël Glaise, donc.
Oui,
et Frédéric.
Si on se souvient de tout ce dont on a parlé depuis ces trois derniers jours, on se rend compte qu'il y a une sorte d'analogie entre la topographie de l'univers wolodinien, donc interne à la diégèse, et la typologie des genres wolodiniens, qui permet d'avoir un point de vue externe sur l'œuvre, puisqu'on a bien vu que les lieux d'enfermement, hein, les prisons, cellules, les lieux d'incarcération, le camp, le quartier de haute sécurité, permet au personnage, par différents procédés comme la méditation, le voyage chamanique, d'évoquer la steppe, les vents, l'infini, le ciel péniblement infini, donc l'immensité, ce qui est le tout, la globalité. Et on a l'impression qu'on a un peu la même chose avec les genres, qui effectivement sont des sortes de petites boîtes dans lesquelles on classe les choses, donc des clôtures, ni plus ni moins, pour enfermer la parole. Et à l'intérieur de chacune de ces cloisons, on a la possibilité de tout évoquer. Hein, le roman peut contenir des formes de petits essais, donc des leçons, des formes de vocifération ou de slogans aussi, des dialogues qui rappellent dans le théâtre. Et là, je me demandais par quelle opération, d'une certaine façon, cette clôture générique permet d'inclure, hein, un peu comme la prison permet par la méditation d'inclure aussi l'infini. Et je pensais à cette visée encyclopédique, hein, du roman pour les romantiques, hein, l'encyclopédie novaliste, mais ça peut être aussi celle de Diderot et d'Alembert. Il y a cette idée, cette double idée qu'on trouve dans le mot encyclopédie, la païdéia, donc la formation, la pédagogie, l'apprentissage, donc la prise en charge de la transmission d'un savoir. Tout l'univers wolodinien est fondé sur cette idée de transmettre, hein, un témoignage, un récit qu'on a obtenu des grands-mères, des petits centenaires pour les porter ailleurs vers un avenir. Donc cette idée de formation et cette idée aussi du cycle, hein, de la révolution, cette façon de tourner, de faire tourner le temps, hein, du passé vers le futur, de faire tourner l'espace, de l'ici vers l'ailleurs, etc. Donc une volonté finalement de chaque fois, dans les formes limitées, finies, qui nous enferment, la frontière, la limite, on peut la transgresser, mais on ne peut pas non plus la dénier complètement, donc elle existe, il y a des frontières générées, mais chaque fois c'est pour y mettre à peu près tout. Parce que vous voyez ce que je veux dire, donc, avec cette idée de l'encyclopédie, vous voyez, de faire tourner autour du temps et de l'espace en globalité, et puis prendre en charge aussi cette espèce de transmission à l'infini, depuis l'origine jusqu'à la fin, depuis les premiers commencements vers les fins dernières. Et donc c'est vraiment un peu comme la prison, un peu comme la cellule, comme le lieu carcéral, une façon de faire entrer l'infini, faire entrer ce que moi j'appelle le hors-temps, parce que je ne vais pas utiliser le terme éternité qui est trop connoté, mais quelque chose qui dépasse, qui déborde les frontières, hein, qui existent, mais qui doivent être transgressées.
Oui, ben, je trouve ça intéressant parce que c'est une autre manière de dire ce que j'ai dit en disant qu'en incorporant la limite, finalement, on l'a problématisée et on accomplissait cette métalepse, en fait, qui est caractéristique de l'œuvre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est cette idée d'encyclopédie parce que dans les catégories de Frey, quand il distingue entre justement, enfin, quand il revient sur l'opposition entre romance et novel et qu'il essaye de distinguer finalement entre différentes formes romanesques, son idée donc c'est que on parle du roman, mais qu'en réalité il n'y a pas un roman et qu'il y a plusieurs manières de faire du roman. Et l'une des catégories qu'il distingue, c'est celle de l'anatomie. Que quelqu'un comme Bakhtin aborde sous l'espèce de la ménipée, sur laquelle j'ai travaillé en partie. Et j'ai pas vraiment la réponse pour ce qui concerne la question de la filiation de l'œuvre wolodinienne avec cette veine-là de la ménipée, mais il me semble que l'hybridation générique, le travail sur donc la totalisation, mais une totalisation qui est problématique parce qu'elle est en même temps sapée toujours par l'ironie, par un discours qui tend finalement à contredire le didactisme, les auditions et tout ça, c'est quelque chose qui est ménipéen et qui est wolodinien à la fois. Donc l'encyclopédie, oui, c'est une question intéressante.
je suis obligé de suivre l'ordre des manifestations, donc Joël Glaise avait demandé la parole.
Oui, je reviens un tout petit peu en arrière pour aller dans le sens d'Audrey et l'encourager à rapprocher de façon un peu provocante Volodine de Balzac, parce que ce n'est pas seulement une question de retour des personnages, c'est une façon de construire un monde qui a une cohérence très, très forte, très grande, une puissance d'intégration d'autant plus surdéveloppée. D'intégration, on voit bien, des œuvres qui viennent au fur et à mesure, que ce soit chez Balzac ou que ce soit chez Volodine. Et donc, c'est une capacité, c'est aussi une capacité, une liberté donnée au lecteur de tisser des liens et de tisser des liens dans l'ensemble romanesque, qui sont extrêmement mobiles, extrêmement ouverts par les personnages ou par d'autres choses. Mais il y a cette façon de circuler en entrant par n'importe quel bout, qui est un des bonheurs de lecture de la comédie humaine, qui a servi de repoussoir, oui, à tout, enfin, à recréer essentiellement, mais pas forcément à Volodine, autant que je dis ça. Mais que l'on retrouve aussi dans l'œuvre de Guillemette.
Juste avant qu'Audrey, j'ai négocié la prise de parole, tu parles de Rob Grier, en fait, il est, d'après moi, c'est pas à ce Balzac-là qui s'oppose. C'est-à-dire au contraire, si Rob Grier, enfin bon, c'est vrai que c'était pas un outil dans ce cas-là de lutte efficace, mais il s'oppose pas à un Balzac protéiforme dont on peut justement...
Il construit le Balzac qui lui sert de repoussoir.
Voilà.
C'est un Balzac qui n'existe pas. Enfin, qui est un Balzac, ou un Balzac, une caricature de Balzac.
Oui, non, parce que ce qui me gênait aussi, et moi ça a été une de mes difficultés de compréhension, moi j'étais resté au Balzac de la gare des Michards, si tu veux. Donc là, Donc là, j'avais du mal, effectivement, à rentrer dans la teneur du propos qui était tenu. Mais je te laisse répondre, Jean. Tu crois ?
Non, je n'ai pas vraiment de réponse à donner sur ce qui vient d'être dit. Ça va dans le sens de ce que je disais.
Donc, dans ce cas, Frédéric s'était manifesté. Vous avez également demandé la parole et Gaspard par après. Je ne sais pas si on pourra aller au-delà des trois interventions. On négociera une quatrième. Frédéric ?
Alors, moi, déjà, juste une première chose. Tu me diras bien comédie post-humaine, parce que moi, j'avais lu déjà comédie inhumaine, mais pas comédie post-humaine.
Plus fort, Frédéric.
La tragédie.
Ah oui, c'est ça. Alors, et ça vient d'où déjà? Moi aussi. Mais... Bon, enfin, c'est anecdotique ça. D'accord, plus fort. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur Balzac ou pas Balzac, mais par contre, il me semble quand même que peut-être à la rescousse de ça aussi, il y a quand même l'intervention sur le romantisme, et Balzac qui est quand même un peu inclus. Il me semble quand même puisqu'on parlait de débat théorique, il me semble, et bon, la référence à Schaeffer est venue dans mon propos, il me semble quand même que dans l'histoire du genre, il ne faut quand même pas négliger cette fracture qui nous paraît être fondamentale pour notre modernité depuis le début. Qui est la redéfinition du terme roman par le romantisme et qui va dans le sens un peu de ce que disait Pierre et ça me paraît important. Pourquoi ? Parce que dans la perspective d'un Schaeffer, réfléchir sur les gens, c'est aussi une façon d'effacer cette rupture romantique et il me semblait que tu abondais dans ce sens tout en essayant de récupérer Balzac et peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose à réfléchir dans la suite de ta réflexion sur ça. Moi il me semble que dans Dans cette redéfinition du roman par le romantisme, il y a quelque chose qui se joue. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit de situer forcément l'œuvre de Volodine dans la filiation de ça, mais néanmoins, pas effacé.
Oui, c'est juste ce que tu dis. Moi, simplement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont les romanciers pensent le roman. Plutôt que les théoriciens, enfin, plutôt que l'histoire du roman telle qu'elle est faite par les théoriciens. Et il me semble que le repoussoir du roman 19e-iste balzacien, c'est quelque chose qui revient tout au long du 20e siècle et qui, dans la littérature française, et qui me paraît intéressant pour penser à la manière dont le roman évolue au 20e. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte la rupture romantique, mais ce n'est pas ça qui transparaît ici dans ce que j'ai voulu dire, en fait, ou dans ce que j'ai trouvé chez Volodine. Ça ne veut pas dire ça y est pas. Mais c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est de reconstruire rétrospectivement la manière dont les romanciers contemporains peuvent se construire cette espèce de forme fantôme, repoussoir, de Balzac qu'ils s'inventent pour avancer.
Je ne suis pas sûr que ce soit encore la problématique aujourd'hui.
Ça l'est chez un certain nombre d'auteurs sur lesquels je travaille, ça n'est pas chez tous, évidemment, mais ça l'est dans une certaine veine du roman contemporain. C'est évidemment pas valable pour tout le contemporain, ce que je viens de dire, mais Volodine n'est pas représentatif de tout le contemporain. C'est très particulier. Et les auteurs sur lesquels je travaille s'inscrivent dans cette veine-là. Ça ne veut évidemment pas dire que ça permet de penser tout le contemporain. C'est une réponse possible.
Mais dans ce cas-là, voilà, j'abuse de mon rôle, hein, tant pis. Mais ce que je te redonnerai la parole après. Oui, non, en fait, quand tu as parlé de Schaeffer, évidemment, moi, j'ai pas pensé à son article récent sur Vox Poetica. J'ai pensé à la généricité, hein, schaefferienne. Et là, je crois que ce qui vient d'être dit est très, très important. Si j'avais, bon, c'est pas un bémol, mais c'est plutôt de l'ordre de l'interrogation, quelque chose à faire observer. Ça rejoint ce qu'a dit Frédéric tout de même. C'est le fait que les normes, qu'elles soient repoussoires ou pas, mutent. Elles aussi. Et qu'au fil du temps, il y a effectivement une évolution notable dont Schaeffer a bien rendu compte par ce terme de généricité que je m'attendais à te voir mettre à profit, en fait, dans le cadre de ta réflexion. Et je me demande effectivement si un certain nombre de normes, notamment dans le rapport à la vraisemblance ou à la notion de vérité, ne sont pas assez largement frappées d'obsolescence aujourd'hui. Je me demande si la redéfinition d'un roman au XXIe siècle, on a parlé quand même du nouveau roman à plusieurs reprises, ne se positionnerait pas plutôt par rapport à cette mouvance et à l'esthétique peut-être un petit peu schématique qu'on en a donnée au fil du temps. Je ne sais pas, en fait, si tu veux, si se positionner par rapport à Balzac pour définir le genre compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis, qui se positionnait contre, est vraiment, sur le plan heuristique, un choix opératoire. C'est ça qui m'embarrasse un petit peu.
C'est la même chose que ce que vient de dire Frédéric, mais je vais faire la même réponse. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un certain nombre d'auteurs, Volodine que j'ai cité, Sange, Chevillard, ont recours à cette image-là. Qu'elle soit obsolète, qu'elle soit dépassée, qu'on puisse réfléchir autrement, c'est une chose. Mais que les romanciers pensent qu'un certain nombre de romanciers trouvent utile de penser leur travail et leur pratique du roman contre cette image-là, c'est ce que je trouve intéressant.
Oui, mais là, je crois qu'il y a quand même aussi des phénomènes, tu parles de Chevillard, il y a des phénomènes de déphasage énonciatif, je pense à ça, lorsqu'il caricature le roman commercial, qui doivent être pris en considération, c'est-à-dire que le texte chevillardien, par exemple, n'est pas homogène sur le plan énonciatif, et je crois qu'on n'est pas non plus dans une mise en cause, que je trouverais un peu sotte, du coup, du roman qui marche, auquel s'opposerait le roman d'avant-garde ressuscité de ses cendres. Je crois que la situation est vraiment beaucoup plus complexe, en fait. Ou alors je fais crédit à ces auteurs d'une intelligence qui n'est pas la leur, mais je pense que ce serait vraiment très très méprisant de réagir ainsi. Pour moi, il y a quand même un problème. J'ai l'impression, en fait, qu'on va répétant sans cesse qu'il y a un vrai bon roman dont on ne veut plus entendre parler, mais par rapport auquel on se positionne de façon négative. J'aurais tendance à estimer que ça fait au moins 30 ans qu'on n'en est plus là. Mais donc, si tu veux, bon, on va tourner en rond si on échange comme ça. Ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il y ait une forme de critériologie qui permette de dire effectivement, oui, tel romancier actuel, de toute évidence, et je le démontre, prend appui sur cette idée stéréotypée, soit pour la faire sienne, soit pour la réfuter. Mais je crois que c'est le problème de la démonstration qui se pose. Bon, je sais qu'en 40 minutes, on n'a pas nécessairement le temps de le faire.
Oui, ben, moi, c'était mon point de départ parce que j'ai trouvé ça parce que je l'ai relevé et j'ai trouvé ça intéressant de me poser la question parce que j'ai l'impression que le roman a besoin d'une limite pour se constituer et qu'ensuite on peut la trouver où on veut, mais qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui la trouvent là. Mais effectivement, ce serait une autre communication ou un propos différent que prouver cette chose-là, c'était pour l'objet.
D'accord. Et donc, je redeviens altruiste et je redonne la parole à ceux qui la voulaient. Vous étiez manifesté avant de vous rétracter ou...
Donnez... Pardon, je suis à nul mot. Je donnerai l'orthographe de mon fils plus tard. Non, mais j'étais très intéressée par. Alors, plutôt que l'association avec le roman du 19e, l'identification au roman du romance, justement anglais, du 18e, et je me demande justement si le jeu de la métalex n'est pas plus fructueux. Dans cette comparaison entre les deux.
Mais je crois que peut-être j'ai pas été claire en fait. Je n'ai absolument pas comparé le roman. Enfin, je n'ai pas cherché à associer le roman bosnien au roman du 19e. Ce que j'ai cherché à faire, c'est d'une part à l'associer à cette tradition anti-romanesque dont le 18e siècle est le parangon, oui. Et d'autre part de montrer que elle se limitait pas à ça, mais qu'elle repenser cette chose-là à la lumière du roman du 19e, il me semble que c'est dans la conjonction des deux et dans l'association des deux qu'il y a quelque chose qui se donne à voir, au sens où la métalepse, chez Stern, chez Diderot, elle est là pour lever l'illusion mimétique, alors que la métalepse volodinienne, elle nous plonge dans le romanesque à la manière d'un Balzac ou de... Voilà.
Ah non, mais j'ai plutôt le sentiment qu'elle nous plonge dans un parcours initiatique. Tu vois, j'ai plutôt l'impression d'un cheminement initiatique, c'est-à-dire qu'on incorpore le lecteur de façon à ce qu'il fasse son expérience.
Oui, ben ça c'est ma conclusion. En fait, c'est en trois temps, c'est ma conclusion.
Excuse-moi, j'ai piqué du nerf. Mais c'est pas ta faute.
Oui, ben c'est ma conclusion. Oui.
Non, mais c'est ça, tu vois, c'est pas du tout la même volonté chez Fielding et Stern. C'est-à-dire qu'il y a un aspect très ludique chez les Anglais. Hein, et. C'est pas la même portée.
Non, mais c'est...
Oui, c'est ce que tu disais. Oui.
Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, et donc Gaspard désirait la parole, et il serait malhonnête de ne pas lui donner.
J'avais une question apparemment qui est un petit peu qui est dans un autre débat, et puis qui est très naïve, mais c'est aussi sûrement les questions éculaires qui sont les plus vicieuses. Je suis tout à fait d'accord, c'est très important de mettre l'accent sur l'aspect central de la métalepse chez Bellini, peut-être pas uniquement chez Bellini, mais presque comme un personnage, une figure, en tout cas la figure centrale de l'Ignatien de la métalepse. D'autre part, tu parlais d'un âge d'or du post-exode, qu'on aurait atteint, on serait en train d'attendre. La question que je me pose depuis un petit peu le début de ce colloque, c'est voilà, Bellini a son cerisier, Bellini est institutionnalisé, il n'est pas encore tout à fait un écrivain officiel, mais enfin, nous ne voulons pas, il pourrait le devenir. Il pourrait avoir des prix, il risque de le
voir. Il a déjà lu,
on pourrait penser. Est-ce qu'il accepterait le nombre, est-ce qu'il accepterait une nouvelle? Comment concilier, c'est un peu le retour de la métalepse, hein, le côté obscur de la métalepse, comment concilier maintenant la crédibilité de ces personnages auteurs complètement dans le noir, dans le sombre, dans la débine, dans l'insuccès avec cette institutionnalisation?
Ben c'est comment concilier le refus du système, des jongleries boutiquières du système, avec la prise en charge de sa réception et de sa mise en marché. C'est la même question. Oui.
Eh bien, je vous propose que les débats se poursuivent à table.
Oui.